Bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Un podcast pour les apprenants, les parents et les profs qui veulent plonger dans la pédagogie Montessori et les neurosciences. Avant d'écouter ce nouvel épisode, j'ai trois propositions à vous faire. Si vous êtes parent d'un enfant au collège et que vous avez à cœur son plein épanouissement, vous pouvez télécharger gratuitement sur mon blog le PDF « Le cerveau des adolescents est littéralement génial ». Si vous avez des enfants ou des élèves entre 7 et 12 ans, vous pourrez découvrir « Je mémorise la conjugaison », une méthode que j'ai créée pour que la conjugaison redevienne un jeu d'enfant. Pour les profs des écoles qui souhaitent s'engager dans une formation et être soutenus dans leur transition éducative, je vous accompagne lors de la formation Montessori, une pédagogie en cohérence avec le fonctionnement du cerveau. Parents et professeurs des écoles, rendez-vous donc sur mon blog montessori-apprendreautrement.com. Je suis Céline Guerrero, prof des écoles, formatrice Montessori, réalisatrice de ce podcast et prête à tout pour que chaque enfant développe son plein potentiel. Si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette transition éducative. Et partagez les épisodes qui vous plaisent avec vos amis et vos collègues. Vous écoutez l'épisode 80 avec Myriam Galamant sur la pédagogie personnalisée du père Pierre Faure. Myriam est chef d'établissement de l'école Notre-Dame du Point du Jour à Lyon et enseigne en CE2. Connaissez-vous les fondamentaux de cette pédagogie ? Myriam nous partage son quotidien en classe où elle applique cette pédagogie personnalisée du Pierre Faure. Elle s'est formée également en philosophie et en yoga pour compléter sa pratique. Je laisse place à ma conversation avec Myriam. Bonjour Myriam, bienvenue sur le podcast.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour parler de la pédagogie personnalisée et communautaire du père Pierre Faure. On a eu quelques petits ratés, mais on a fini par réussir à enregistrer ce podcast, donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Est-ce que vous voulez commencer par vous présenter ?
Oui, très bien. Alors donc je suis Myriam Galamant. Actuellement, je suis enseignante en classe de CE2 et je suis aussi chef d'établissement sur Lyon. Voilà, et donc je suis aussi formatrice et je me suis spécialisée en pédagogie personnalisée du père Pierre Faure. Alors pourquoi ? Parce que à un moment donné, donc ça fait 19 ans maintenant que je suis enseignante, à un moment donné, je me suis beaucoup posé la question sur ma posture en tant qu'enseignante et voilà, les élèves que j'avais changeaient. J'ai vu le changement sur les dix ans et je me suis dit, il faut que je change. Et j'ai eu l'opportunité de découvrir qu'il y avait une formation sur la pédagogie personnalisée du père Faure. Pédagogie personnalisée, ça m'a beaucoup interrogée. Et puis aussi, l'aspect communautaire, c'était un questionnement, mais je me suis dit, j'allais découvrir à travers ce stage de formation. Donc, le premier stage que j'ai fait, c'était aussi sur Lyon, c'était une semaine en pleine imprégnation dans une classe avec des élèves et on était observateurs de cette pédagogie. Donc, on voyait comment évoluaient les formateurs, travailler avec les enfants et on regardait, on prenait des notes. Et puis ensuite, ça, c'était le matin. Et puis l'après-midi, on travaillait sur une mise en place, une mise en œuvre de cette pédagogie au sein de la classe. Et là, ça a été le déclic. Ça a été le déclic parce qu'il y avait une super ambiance de classe. Les enfants étaient au travail. Et on sentait vraiment que les enfants apprécié, été motivé pendant ces 5 jours et je me suis dit, allez hop, banco, je vais le mettre en place dans ma classe même et je me suis vraiment investie tout l'été avant ma rentrée, j'avais une classe de CP, je me suis investie dans cette pédagogie-là et effectivement, j'y ai vraiment trouvé l'épanouissement personnel et celui aussi des élèves. Donc, l'un comme l'autre, adulte comme enfant, au final, au bout de l'année, c'était super. Enfin, il y avait vraiment un bien-être, et les enfants comme les parents étaient très contents de tout ce qu'on avait pu apprendre par le biais de cette pédagogie. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis consacrée à aussi, comme moi j'ai eu ce bien-être, je me suis dit comment je pourrais le faire passer. Et donc je me suis dit, ben, je vais me former encore un peu plus à cette pédagogie. Et comme j'ai eu cette année le titre de formateur, donc j'ai fait mon mémoire sur justement cette pédagogie personnalisée du père fort, ben, je me suis dit, ben, je vais me spécialiser sur cette pédagogie-là. Et donc voilà, c'est aussi c'est en lien avec tout mon travail d'enseignant et ma posture professionnelle. Donc voilà, et je continue vraiment avec plaisir pour l'année prochaine. Maintenant que j'ai aussi un nouveau niveau de CE2, l'année dernière j'ai déjà travaillé et cette année je vais beaucoup, je m'y mets, je vais le faire de plus en plus parce que j'y crois.
Oui.
Voilà.
Et cette formation, c'était, on en a discuté au téléphone, c'était à peu près en 2015, hein, que...
C'est ça, 2015. Voilà. Et ensuite, j'ai fait une deuxième formation, cette fois-ci en 2016, un an après. 2016, oui, sur Paris. Sur l'école Bossuet dans Paris, qui est assez spécialisée, voilà, la petite section CM2 sur la pédagogie personnalisée du père fort. Voilà, ces deux stages été comme hiver m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté.
J'ai participé aussi à cette semaine de formation. Alors, j'arrive pas à me rappeler si c'était en 2015, une année avant, une année après, mais enfin, a priori, c'était en 2015. Et ce qu'on peut peut-être dire pour les auditeurs, c'est d'écrire aussi la liberté qu'on avait pendant ce stage de formation. Parce que le matin, on observait, mais l'après-midi, je me rappelle qu'il y avait plusieurs ateliers. Et plusieurs sujets, plusieurs cycles, et on pouvait choisir de participer à l'atelier qui nous intéressait le plus.
Donc, exactement.
On le vivait vraiment.
Moi, j'avais le cycle, j'avais des grandes sections CP à l'époque, donc du coup, je m'étais beaucoup plus centrée sur le cycle 2. Et c'est vrai que l'après-midi, on travaillait sur nos programmations. Et nos progressions et toutes les activités qu'on pouvait mettre en place au sein de la classe, et puis aussi toutes ces activités qui liaient aussi le corps et les apprentissages. Et ça, je trouvais aussi que c'était une super découverte. Et après, suite à ça, dans mon parcours personnel et professionnel, je me suis formée au yoga dans l'éducation. Donc, j'ai fait le certificat RI, recherche du yoga dans l'éducation. Donc, c'est une association qui forme des enseignants, professeurs de yoga, qui sont en lien avec les enfants et les adolescents pour le yoga en classe. Parce que vraiment, l'importance du corps dans les apprentissages s'est relevée aussi importante. Et ça, ça a déclenché. Hein, c'est grâce à ce stage qui a déclenché un petit peu tout ça. Et puis ensuite, l'aspect communautaire qui est plutôt, effectivement, on n'est pas tout seul pour construire le monde, on est ensemble. Et cet aspect un peu de communauté, d'être ensemble pour aller plus loin, je me suis aussi formée avec l'association SEM, Savoir être et vivre ensemble, créée par Martine Adam-Roussel et Frédéric Lenoir. Et ça, c'était aussi en 2016-2017, sur un an à cheval, sur une année, où là, les ateliers philo aussi permettaient aussi d'alimenter un peu ce groupe, le travail en groupe, l'échange d'arguments, et puis construire aussi sa propre identité par rapport à ce qu'on pense, et puis aussi évoluer par rapport à accepter la vie de l'autre, se construire aussi par rapport à on se construit, on entend les différents arguments, et puis on se reconstruit à nouveau des arguments, mais tout ça dans le respect des avis de chacun, et ça c'était aussi important. Et je pense que Pierre Fort, c'est ce qu'il aimait aussi, cette altérité, c'est ce qui aussi rajoute par rapport au travail au travail individuel, le travail personnalisé, c'est la personne dans toutes ses dimensions, ces trois dimensions qui sont le corps, l'esprit et on va dire le supplément d'âme, l'âme aussi, l'aspect un petit peu spirituel qui va développer avec, avec Hélène Nguyen-Scalanval, où cette rencontre a été primordiale pour lui et dont il s'est inspiré pour ses recherches.
Donc, si je comprends
voilà
bien...
Voilà un petit peu le cheminement de mon parcours.
Oui,
voilà.
Si je comprends bien...
Il y a un petit peu des ramifications.
C'est ça. Vous avez commencé à vous former à la pédagogie personnalisée et communautaire du Pierrefort, et ensuite, vous avez poursuivi avec des formations en sur la philosophie et le yoga. Enfin, yoga, philosophie, peut-être pas
voilà,
dans le bon ordre.
Pour compléter un petit peu cet aspect qui m'avait beaucoup éclairci.
D'accord. Alors, pour les auditeurs...
Compléter vraiment cet aspect du Pierrefort.
Et pour les auditeurs qui n'ont jamais entendu parler du Pierrefort, de Pierrefort, est-ce que vous pourriez nous dire un peu, nous parler des fondamentaux de cette pédagogie?
Oui. Alors, donc déjà, Pierrefort, c'est un père jésuite. C'est un père jésuite. Ça, c'est important parce que dans ce qu'il a mis en place, l'aspect de la spiritualité ignatienne est assez importante dans la mesure où il y a une relecture. Voilà. Il y a dans la congrégation ignatienne que sont qui est la compagnie de Jésus. Il y a un aspect qui s'appelle les exercices spirituels. Et les exercices spirituels, c'est un moment où la personne va relire sa vie. Et en relisant sa vie, va faire des choix. Voilà. Et donc ça, c'est un aspect assez important que l'on va retrouver dans la pédagogie personnalisée communautaire du Pierrefort. Donc ça, c'est important. Donc, il est né en 1904 et décédé en 1988. Donc, il s'intéresse beaucoup aux problèmes scolaires d'éducation et il va créer des revues pédagogiques et un centre d'études pédagogiques. Et on peut retrouver ce centre pédagogique, c'est l'Institut catholique de Paris sur Lyon, voilà, et qui est issu de sa première création. Et donc le père Faure, il se réfère au principe de l'école nouvelle, où on va trouver les travaux d'Édouard Seguin, donc on verra un peu le matériel qu'il utilise, Édouard Seguin, de Maria Montessori et d'Hélène Nguyen-Scalanval. Donc, à travers toute sa vie, il va vraiment beaucoup travailler sur l'élève, le respect de son rythme, et la collaboration avec les parents et sur l'enseignement personnalisé. Donc, il va essayer pour lui de tout développer pour que, avec un objectif qui est de permettre à l'enfant de se construire. Donc, à partir de là, il va se baser sur plusieurs réflexions théoriques. Et il va écrire plusieurs ouvrages qui sont des instruments de travail aujourd'hui, comme Psychologie et grammaire, Poèmes à l'écoute du monde, La mathématique, L'enseignement du français par l'observation des textes et un enseignement personnalisé et communautaire. Donc, même si c'est un scientifique, il aimait beaucoup aussi les lettres, sachant que la grammaire aussi, c'est très scientifique, la grammaire. Donc, il va aussi développer, ce sera des symboliques de la grammaire, qui ne seront pas exactement les mêmes que Montessori. Bon, il a sa propre vision, mais le principe est le même. Alors, les fondements. Donc, il s'agit, comme je disais, d'une éducation intégrale de la personne humaine dans sa dimension personnelle, sociale et relationnelle, donc, qui vise le bien commun, en prenant compte aussi donc, de ce que j'appelais l'âme, le spirituel, la transcendance qui unifie la personne. Et cet aspect spirituel sera développé avec Hélène Nguyen-Scalanval. En fait, Hélène Nguyen-Scalanval va beaucoup travailler sur la leçon de silence et puis aussi intégrer quand il va y avoir les lettres muettes qui ils vont prendre Hélène Nguyen-Scalanval et Maria Montessori ont travaillé ensemble, mais elles ont eu un aspect un peu, un regard un petit peu différent. Et Hélène va plutôt, déjà les couleurs ne sont pas les mêmes au niveau des lettres muettes, et va vraiment essayer de faire en sorte que l'imprégnation personnelle se fasse par le biais du silence et du corps. Ça, c'était primordial pour Hélène. Et du coup, le père Pierre Fort va beaucoup l'intégrer sur tout ce qu'il va construire dans les différents outils organisationnels dont on parlera tout à l'heure. Donc, il va partir sur aussi tout le développement de tout ce qui est des perceptions, de stimuler les sens. Et c'est lié aussi à Édouard Seguin, qui va essayer de développer à travers, comme on connaît, vous connaissez sûrement les tables de Seguin. Voilà, celle-là, j'ai cherché. Oui. Les tables de Seguin qui sont... oui, c'est ça. Et donc, ces tables de Seguin, ça va être en lien avec tout ce qui est matériel sensoriel et personnalisé, puisque ces tables de Seguin, elles s'utilisent aussi de manière individuelle. Et il va aussi... Il se réfère beaucoup aussi aux philosophes, par rapport à la formation personnelle comme Montaigne, par l'observation de la vie, la lecture, les exercices corporels. Il va aussi s'intéresser au philosophe Fénelon, qui aborde un peu la conduite vers l'intériorisation. Et on voit que dans le travail personnalisé, c'est beaucoup on va partir de ce qu'on observe et on va de l'extérieur que l'on va intérioriser. Donc, c'est ce mouvement-là. Dans un premier temps, on va dire personnalisé, l'enfant va travailler tout seul avec du matériel, développer ses sens, mettre en éveil ses sens. Et ensuite, il va l'intérioriser. Et ensuite, donc ça, c'est un mouvement de l'externe vers l'interne. Et ensuite, on a un deuxième mouvement qui est de l'interne à l'externe, qui sera l'aspect plutôt communautaire, où là, l'enfant, dans l'aspect communautaire, va exprimer ce qu'il a appris pour pouvoir aussi aider l'autre à apprendre. Il va aider l'autre à apprendre. Il va aussi voir comment comment son camarade a mis en place, quelle stratégie, ou faire découvrir, par exemple, aussi un matériel. Donc, voilà, on a ces mouvements-là. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut dire, c'est vraiment la base, la base fondamentale. Ensuite, il y a des principes incontournables. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, il y a la construction de la personnalité. Tous les aspects sont concernés, intellectuels, affectifs, sociaux et spirituels. Et puis, comme je vous ai dit, il y a tout ce qui est intériorisation, voilà, qui est primordial dans la pédagogie personnalisée. Il y a le développement du potentiel de chacun par la proposition d'activités diverses. Donc, on en parlera plus tard sur comment ça s'organise en classe et les propositions d'activités. Et bien sûr, l'éveil du sens communautaire par le développement de l'entraide et le partage des responsabilités. En fait, l'aspect communautaire, c'est vrai que ce n'est pas évident dans le monde d'aujourd'hui, parce que quand on parle communautaire, ça réfère à des principes d'aujourd'hui, où on parle de communauté qui est... Alors, il faut se remettre de communauté plutôt entre elles. Il faut se remettre dans les années 80, où c'était plutôt un aspect où on mettait tout en commun. Et donc, c'est communautaire pour Pierre Fort parce qu'il y a ces temps collectifs, ces temps de partage, ces moments de synthèse et de restitution des différents savoirs qui ont été découverts et qui sont que l'enfant restitue au groupe. Et en fait, c'est ça, c'est l'aspect communautaire, c'est les mises en commun. Donc voilà. Et à partir de là, on va essayer de développer donc une réflexion, une sensibilité, une curiosité, et donc mettre en jeu et mettre en interaction tous ces différents aspects qui sont le corps, le cœur et l'esprit à travers différents outils au sein de la classe qui vont enrichir justement la mise en place de cette pédagogie.
D'accord, voilà, donc ça c'est pour les fondamentaux.
Voilà un petit peu pour les fondamentaux.
D'accord. Suite à cette première formation, quel changement vous avez apporté dans votre classe ? Qu'est-ce que vous avez arrêté de faire ? Qu'est-ce que vous avez commencé de faire ? Enfin, voilà, quels sont les différents changements ?
Alors, les différents changements que j'ai faits, c'est l'organisation de l'espace classe. Voilà, ça a été la première chose que j'ai mis en place. Ça veut dire que j'ai mis plutôt les enfants beaucoup plus en îlot. Voilà. Et puis, j'ai mis en place les différentes activités en lien avec les différentes matières. Ça veut dire que j'avais sur une étagère tout le matériel qui concernait les mathématiques, et puis sur une autre étagère, sur un autre coin de la classe, tout le matériel qui concernait le français, et puis divisé par les différents domaines que sont la conjugaison et la grammaire, tout comme en mathématiques, ce sera avec le coin manipulation lié au nombre, à l'énumération, et puis du matériel pour concernant tout ce qui est calcul, et puis à disposition libre aussi pour pouvoir résoudre des problèmes. Voilà, ça c'est vraiment, j'ai organisé l'espace classe comme ça, en mettant à disposition libre du matériel pour les enfants. Ensuite, j'ai alterné beaucoup plus des activités de travaux individuels, de petits groupes et d'activités collectives. Disons que je faisais beaucoup, beaucoup moins de collectifs. J'ai vraiment réduit le collectif. J'en ai fait et dans ma journée, j'ai vraiment partagé la journée où il fallait que, quand je faisais ma relecture, ma synthèse de la journée, il fallait que les enfants aient pu travailler dans ces trois modalités qui sont l'individuel, le groupe et le collectif. Voilà, ça, suite à ces formations, voilà ce que j'ai pu déjà mettre en place. Ensuite, j'ai travaillé sur les instruments de travail que sont le plan de l'année, la programmation par matière, où sont énumérées les différentes notions à acquérir. Et puis, tout ce qui est plan de travail avec des fiches et des directives de travail, des lieux où ils pouvaient aller chercher les dictées muettes, par exemple. Voilà. Ils avaient leur plan de travail, ils pouvaient choisir l'activité qu'ils souhaitaient et puis ils allaient chercher ce qui leur correspondait. Donc ça, je le faisais beaucoup en début de matinée. Voilà, j'ai vraiment, suite à cette formation, j'ai complètement changé cette organisation de la classe et l'apport libre, l'apport du matériel qui était à disposition libre pour les élèves quand ils faisaient leur travail individuel. Voilà un petit peu ce que j'ai modifié suite à cette formation. Et ce que j'ai aussi mis en place, c'est l'accueil des parents. Alors, une fois que l'organisation du personnalisé était vraiment mis en place et tournait, donc j'ai invité les parents à, en fait, comme nous on a fait en tant que stagiaire quand on était contre le mur à observer les enfants, ben j'ai fait exactement la même chose avec mes parents d'élèves. Donc, je leur ai dit qu'ils allaient être des tapisseries, donc se mettre au fond. Donc, c'était un soir après la classe, à 18h, qu'on avait préparé avec les enfants. Je leur avais dit, bon, ben, les enfants, vous allez montrer comment vous travaillez en travail personnalisé communautaire. Vous allez montrer à vos parents. Voilà, ça précédait. En plus, j'avais demandé aux parents d'apporter de quoi faire un petit apéritif ensemble pour pouvoir après discuter un peu de ce qui se passait, de comment ils avaient vécu cette séance-là. Et pendant 3 quarts d'heure, eh ben, ils ont regardé comment fonctionnaient leurs enfants au travail. Ils ont été très impressionnés. On a fait jusqu'à la mise en commun. Et ça a eu vraiment, ils ont vu leur enfant dans le cadre de la classe. Et je retrouvais un peu cet esprit que veut le Pierre Fort. Ça veut dire que cette communication avec les parents est primordiale parce qu'on est partenaire. Et il faut vraiment, pour qu'ils aient confiance en nous, justement, qu'on ose ouvrir les portes de la classe pour voir que, voilà, qu'on prend bien soin de leur enfant et qu'on fait bien attention à eux. Et une fois que voilà, cette ouverture est faite, voilà, la confiance, elle est vraiment, vraiment là. Mmh. Et c'est ce que j'ai vraiment pu en bénéficier de cette confiance et de cet aspect positif.
Mmh. Puis c'est important, je trouve, d'instaurer cette relation de confiance, parce que dès qu'on travaille d'une manière un peu différente, ben voilà, les parents, c'est pas ce qu'ils ont connu quand ils étaient plus jeunes, l'inconnu peut faire peur, donc là, au moins, ils peuvent observer, ils peuvent être rassurés, ils peuvent poser leurs questions, et voilà, la relation de confiance peut se créer.
Oui, et... oui tout à fait, et ils voient leur enfant aussi épanoui et ravi de venir à l'école, et ça, c'est une angoisse en moi.
Et est-ce que le matin, vous permettez aux enfants d'arriver de manière échelonnée sur les 10 minutes d'accueil?
Tout à fait. Ouais. Nous, on a un quart d'heure.
Oui, 10-15 minutes.
Et en plus, moi, pour l'année dernière, moi qui ai commencé aussi dans une nouvelle école et puis dans un nouveau niveau, avec ben, en fait l'aspect, le fait qu'il y ait le Covid et qu'on ne soit pas brassé, et ben, ça a permis de faire... des entrées échelonnées, on a mis en place ça sur tous les niveaux. Mmh. Et en fait, même les collègues m'ont dit, mais en fait, c'est génial qu'ils arrivent voilà, entre 8h15 et 8h30 de manière échelonnée. Et du coup, on a une relation aussi beaucoup plus particulière quand ils arrivent voilà, de manière un petit peu, on va dire, individuelle. Et puis chacun prend sa soie se réveille, il y en a d'autres qui se mettent au travail tout de suite, et chacun a son rythme. Mmh. Ils ont cet espace un petit peu de liberté comme ils souhaitent avant la sonnerie de 8h30. Et je trouve que rien que ça, on passe le début de la matinée et sympa. Il n'y a pas de stress non plus.
Oui, oui. Je l'ai vécu.
Le stress d'arriver avant 8h30.
Oui.
Mais bon. À part ça, je trouve que c'est beaucoup plus simple.
Je l'ai vécu aussi pendant un an ou deux quand j'étais en CE2 à mi-temps. Oui. Et on était avec ma collègue, on était les seuls au début à autoriser l'accueil échelonné. Et les autres collègues avaient du mal à imaginer que les enfants puissent monter les escaliers dans le calme. Et en fait, j'ai trouvé ça mais super agréable de commencer la matinée comme ça. Avec un peu de musique classique, je me rappelle. Et voilà, comme vous dites, chacun s'installait à son rythme et on avait un petit temps pour échanger quelques minutes avec chacun, ou presque. Et ça, on ne l'a pas quand il y a le gros groupe classe qui arrive d'un seul coup. Donc, c'était vraiment une bonne façon de démarrer la journée, je trouvais.
Oui, tout à fait. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment primordial. Ça, c'est vraiment... Et puis, c'est... Ça donne aussi, et je comprends un petit peu parce que ça, c'est ce qui est aussi préconisé dans la pédagogie personnalisée et communautaire. Et c'était cet aspect, comme on dit, d'intériorisation, d'arriver tranquillement et de se poser sans le brouhaha. Effectivement, moi, je mets aussi de la musique et d'arriver, mais vraiment, paisiblement. Et ça, je trouve que c'est un rituel qui est à garder, qui est vraiment très, très intéressant. Sur, l'enfant arrive avec son histoire et après, il a un quart d'heure pour voir ce qu'il en fait, de ce qui s'est passé de ce qui s'est passé à la maison et puis de pouvoir commencer la journée. Je trouve que c'est c'est très intéressant.
Et cette année, avec vos CE2, combien de temps durait ce moment de travail personnalisé? Est-ce que c'était toute la matinée, une partie de la matinée?
Non, c'est une partie de la matinée. Donc, trois quarts d'heure de temps personnalisé et un quart d'heure de mise en commun. Ça veut dire on va relire un peu. Donc, ils avaient un cahier de plan, ils ont un cahier de plan de travail dans lequel est la programmation de l'année. Alors, ce qui est intéressant pour les parents, en fait, moi qui utilise des fichiers de maths et de français, le fait d'avoir un cahier de plan de travail et d'avoir la programmation de l'année qui est inscrite, qui est collée dans leur cahier de plan de travail, et ben ça permet, et donc en réunion de classe, ça permet vraiment aux parents de voir un petit peu les différentes notions qu'ils vont voir en CE2. Donc ça fait un petit peu une synthèse, on va dire. Une synthèse par rapport à tous les outils qu'ils vont utiliser. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Et en fait, avec les enfants, dans les mises en commun, on prenait le cahier de plan de travail et puis les notions qu'on avait fini de voir, on les coloriait. Et puis on disait, est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde est OK? Est-ce qu'on a bien, voilà, on a vu ça. Et puis je mettais aussi la programmation en découverte du monde. Et je dis, est-ce que vous êtes OK? On a vu cette notion-là, c'est tout bon pour tout le monde, oui, voilà, après, il faut quand même, on reste quand même en France où l'évaluation reste importante, mais une petite évaluation avec 3-4 questions, voilà, permet un petit peu de bien institutionnaliser tout ça. Mais on se mettait d'accord, on se disait, c'est bon, est-ce qu'on peut dire, par exemple, si je vais prendre... la thématique de l'Antiquité, ben, il fallait qu'ensemble, on puisse déterminer 10 mots-clés. Voilà, 10 mots-clés sur l'Antiquité, puis chacun disait ça, on faisait un petit lien. Je dis, bon, ben alors c'est bon, c'est tout OK, on a revu ça, donc on peut le colorier, on va dire que l'Antiquité, c'est acquis. Voilà, c'est un petit peu ça. Et donc ça, c'était important au niveau du cahier de plan. Donc, ils ont leur cahier de plan. Ils choisissent leur activité, ils mettent la date, donc ils savent quand, par exemple, alors moi l'année dernière, j'ai commencé qu'en janvier. Cette année, je vais commencer mi-septembre et ce sera la première fois. Et comment je vois les choses, c'est que je vais les prendre en petits groupes dans le cadre des APC, donc des activités pédagogiques complémentaires, entre midi et deux pour pouvoir. Travailler avec eux, l'organisation, expliquer ce que c'est et la méthodologie de travail. Donc, entre midi et deux, je vais prendre une demi-heure des petits groupes de mes élèves, hein, 3-4, où je vais leur expliquer à quoi sert le cahier de travail, où se trouvent les différentes activités, pour que, en fait, dès qu'on va se mettre mi-septembre à pouvoir réellement se mettre. Dès qu'ils arrivent en échelonné, à se mettre en début de matinée en activité personnalisée communautaire, en temps personnalisé communautaire, et ben que tout le monde soit opérationnel. Voilà. Donc ça, c'est un peu une stratégie que j'ai décidé de mettre en place pour bien commencer. Puis du coup, ça me permettra aussi de les connaître parce que c'est des nouveaux élèves. À part bon, la transmission qu'on s'est fait avec la collègue du niveau précédent, et ben, je trouve que anticiper un peu ces APC et le mettre vraiment utiliser justement ça pour pouvoir connaître les élèves et puis leur expliquer un peu la méthodologie, ça leur permet de savoir ce que moi j'entends d'eux. Et puis, moi aussi, d'écouter aussi ce que eux, ils sont et comment ils sont. Voilà, dans la mesure où il y a aussi différentes activités que je mettrai en place pour qu'ils puissent se connaître, eux, qui suis-je. Voilà, sur différents aspects que je mettrai aussi en avant pour que je puisse vraiment bien les connaître et vraiment bien m'adapter. Sachant que cette année, je vais utiliser, alors ça va être une expérimentation, Je voulais expérimenter le fichier de français adapté au 10, donc clé au 10, parce que dans mon... en fait, pour être plus précise, l'année dernière, donc moi je suis à mi-temps avec donc la décharge de direction, et la personne qui prend ma décharge de direction, c'est une stagiaire professeure des écoles. Et l'année dernière, elle avait une tutrice qui a participé, sa tutrice a participé à la création du fichier Cléo 10 des éditions Retz. Et quand on faisait le point sur la stagiaire, elle m'en a beaucoup parlé. Puis ma stagiaire aussi en a beaucoup parlé, puisqu'elle est allée aussi visiter la classe de sa tutrice, hein, qui avait aussi un CE2. Et c'est vrai qu'avec cette enseignante qui a participé, on en a beaucoup discuté. Puis je lui ai dit que j'allais le mettre en place cette année, et comme ça je lui ferai un petit peu des retours par rapport à mes expérimentations et par rapport à ce fichier qui est adapté aux élèves 10.
D'accord.
Voilà, donc moi, l'année prochaine, dans ma classe, j'en ai un certain nombre, et ils auront, voilà. Ils auront ce fichier-là, donc on verra ce qu'il en est. Et c'est pour ça aussi que le fait de bien les connaître, ça permettra aussi de bien savoir lors de ces temps d'APC ce qu'il faudra faire, et si moi, par rapport aux activités que je vais proposer dans le cadre du travail personnalisé, s'il y a des choses que je vais aussi adapter.
D'accord. J'aimerais vous poser une question sur le plan de travail. Est-ce que c'est... ils choisissent les activités et les font dans l'ordre qu'ils le souhaitent? Est-ce qu'il y a des cases vides pour qu'eux puissent choisir? Comment... Ou est-ce que c'est vraiment très guidé? Ou est-ce que c'est vraiment très guidé?
C'est pas du tout... Enfin, ce qui est guidé, ce sont les activités en tant que telles. Sinon, dans leur plan de travail, c'est eux qui choisissent. Il y en a, par exemple, il y en a une dizaine. Il y en a une dizaine. Il va y avoir, construire la table de Pythagore. Il va y avoir les multiplications. Un exemple, alors moi, je me base sur l'année dernière. Il va y avoir aussi des activités de logique. Je vais mettre des sudokus. Je vais mettre des tracés géométriques, des programmes de construction. J'essaye au maximum, les tables de Sauguin, ce sera pour réviser, donc ce sera pour ce début d'année. Qu'est-ce que j'ai construit aussi pour placer beaucoup, j'essaye de faire en sorte que ce soit des choses qui manipulent, par exemple manipuler des étiquettes, manipuler des pinces à linge pour pouvoir les mettre sur les bonnes réponses. Donc tout ça est mis sur un tableau, ils choisissent. Il y a les dictées muettes. Alors, les dictées muettes, c'est pareil. Ou les lettres rugueuses pour revoir un peu la graphie de l'écriture. Les lettres rugueuses, que ce soit les minuscules ou les majuscules, pour pouvoir revoir un petit peu la graphie de ces lettres. Donc, ils choisissent. Alors, on voit bien que quand ils choisissent, on détecte déjà leur appétence. Ce sera plutôt une appétence en français ou une appétence en maths. On voit déjà. Et ce qui est intéressant, donc ils choisissent. Et quand on fait dans la mise en commun, quand ils viennent me voir, alors ils vont choisir. Ils choisissent, ils vont vers l'activité, ils récupèrent l'activité, ils la font à leur place. Pour que je puisse vérifier, ils lèvent la main et moi je viens pour vérifier, et puis je leur dis OK, ils peuvent colorier. Donc, quand c'était OK que j'ai vérifié, ils colorient. Ensuite, le lendemain, par exemple, on relit un petit peu ensemble ce qu'ils ont fait. En fait, ils se mettent aussi en projet. Une fois qu'ils ont terminé, dans la journée, quand ils ont terminé leur plan de travail dans cet espace-temps de début de matinée, ils doivent se mettre en projet. Ils doivent se dire bon ben pour le lendemain, qu'est-ce que je fais ? Et donc ils notent Ils mettent une croix sur ce qu'ils doivent faire la fois d'après. Et il m'arrive que je passe ou que je dise, ah ben tu vois, moi je trouve que, Alban, je trouve que tu... Je trouve que tu n'as pas touché aux dictées muettes pendant 15 jours. Il faudrait peut-être que tu te mettes en projet, que tu essayes de faire une dictée muette. Je dis, tu vas voir, si tu as besoin de moi, je serai là. Tu peux demander à un camarade pour qu'il puisse t'expliquer comment ça fonctionne. Et vas-y, essaye les dictées muettes. Alors souvent, ils ont un petit peu peur. Et puis quand ils s'y mettent, après ils en font tout le temps parce qu'ils ont découvert quand même l'intérêt de l'activité. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Et l'objectif, c'est que... Alors, moi, je me suis donné le plan de travail sur 15 jours. Mmh. Ah, donc, avec la stagiaire qu'on a ensemble, on le fait ensemble pour que ce soit un rituel, donc ce soit tous les jours. Et on se donne 15 jours pour après changer d'activité ou maintenir certaines et changer d'autres activités, mais qu'il faut que leur plan de travail dure sur 15 jours.
D'accord. Et alors, je vais vous embêter un petit peu avec cette question, mais elle me titille. Pourquoi se limiter à 45 minutes ?
Parce qu'en fait, j'ai découvert que certains élèves en avaient assez. Que des fois, ils avaient envie de passer à autre chose. Ils avaient envie de passer à autre chose. Alors, c'est vrai que ce n'est pas tous les élèves. Il y en a certains qui ont besoin. Alors, c'est vrai, du coup, l'année dernière, je me suis vraiment limitée. Et c'est une question, c'est une très bonne question dans la mesure où je me dis, est-ce que je pourrais aller... normalement, il faudrait aller jusqu'à la récréation, donc aller un petit peu plus. Mais qu'est-ce que je ferais exactement de ces élèves qui, à un moment donné, en ont... un petit peu assez parce que je les vois un petit peu souffler. Alors, est-ce que prévoir... je me suis axée effectivement sur un groupe d'élèves qui en avaient... Où vraiment, ils n'en pouvaient plus, en fait. Quand je leur disais, allez, que j'étais tout le temps en train d'essayer de les motiver pour aller vers... Et pourtant, il y avait des choses qui leur plaisaient énormément...
D'accord.
Alors, c'est l'aspect motivationnel. Je me suis dit, bon, je vais écourter. Comme ça, je suis sûre qu'effectivement, au moins, ce sera... ils seront investis dans leur travail. Mais après, après, on passe à autre chose.
Parce que je vous pose cette question parce que... Dans la pédagogie Montessori, enfin moi j'ai eu une semaine de formation Perfort et après j'ai basculé dans la pédagogie Montessori. Et on parle de période ininterrompue de travail de 2 heures, 2 heures et demie, donc toute la matinée en fait, 2 heures et demie, 2 heures et demie, 3 heures. Et il y a cette période de fausse fatigue qui peut arriver, je sais plus, au bout d'une heure, une heure et quart, une heure et demie, j'ai plus le nombre en tête. Et ça dépend aussi des enfants. Et on se dit, oh là là, ça y est, la classe s'agite, personne... Enfin, on sent là, ça y est, on pourrait croire pendant cette période de fausse fatigue que les enfants en ont marre et puis voilà, ils ont besoin de passer à autre chose. Et juste après, et là, ils se reconcentrent et c'est reparti pour un long moment. Et en fait, ils peuvent s'autoriser à repartir dans quelque chose, un travail long, parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas interrompus jusqu'à midi, midi moins le quart. Vous voyez ?
Ah oui, donc en fait, oui, c'est vrai que ce serait intéressant. C'est très bien, c'est quelque chose que je vais regarder, observer et voir un petit peu ce que je... déjà leur donner effectivement l'autorisation de se dire qu'ils peuvent en avoir marre, c'est vrai.
Oui.
Que c'est comme nous, hein.
Oui. Ils peuvent prendre une pause. Ils peuvent prendre une pause et lire un roman pendant 10 minutes, un quart d'heure et faire autre chose après.
Et puis après, quand tu es... quand tu es à nouveau disponible, tu t'y remets.
C'est ça.
Oui. Ouais. Oui, c'est vrai que ça peut être effectivement très intéressant cette analyse et ce retour. Ça va me permettre un petit peu d'avoir un autre regard. Voilà, de revoir un peu les choses différemment. Je vais.
c'est une suggestion. Je le vis je pas. Vais, je... Pardon, je ne le vis pas en classe parce que je ne suis pas dans une école Montessori, mais je le vis pendant mes ateliers qui durent 2 heures. Au début, c'était 3. Et maintenant, bon, c'est vrai que j'ai raccourci, c'est que 2 heures. Mais voilà, c'est pendant les 2 heures, alors les plus grands ont un plan aussi. Là, je vais le faire le mercredi, les plus grands auront un plan, un plan de travail. Mais voilà, ça passe même trop vite, en fait. Je trouve qu'au bout de 2 heures, on se dit, quoi, ça y est, c'est déjà terminé.
Oui. Et c'est vrai parce que quand je revois un petit peu mes élèves, j'en ai certains mais qui étaient à fond quoi. Et c'est vrai que des fois on culpabilise un petit peu de se dire ben ça y est, il y en a qui se sont réellement mis au travail au bout d'un quart d'heure, voilà, et on s'est dit mince, on les interrompt.
C'est ça.
Et c'est vrai, ça permet un petit peu de s'adapter et puis se donner l'autorisation. Bah oui, c'est vrai que dans le cadre, quand je vais les avoir en petit groupe, c'est quelque chose où après ce sera affiché, où je pourrais leur dire, ben, une des règles, c'est que je vous autorise quand vous voyez que vous n'êtes pas, que vous n'êtes plus disponible pour suivre. Une des règles, c'est que vous avez l'autorisation effectivement de pouvoir faire une pause. Mmh. Et après, une fois que vous vous ressentez disponible.
J'avais même lu une éducatrice Montessori aux États-Unis qui avait constaté que quand elle avait une intervenante en musique, en art, qui venait dans la matinée, si les enfants savaient que l'intervenante venait à 10h ou à 11h, ils ne se plongeaient pas de la même manière, avec la même intensité dans leur travail, parce qu'ils savaient qu'à 10h ou à 11h, ils seraient interrompus. C'est...
Voilà. D'accord. Okay. Oui, bah c'est vrai que c'est lié... Tout est lié à cet emploi du temps et à cette mise en projet.
Ouais. Et tout à l'heure, vous parliez de la table de Pythagore et j'aurais aimé vous poser la question. Quand construire la table de Pythagore, c'est sur une fiche ou avec le matériel ?
Non, avec le matériel, en fait.
D'accord.
Vous savez, c'est les barres Cuisenaire, mais pas les barres Cuisenaire lisses. Hein. C'est celles qui sont... qui ont où l'unité est délimitée.
D'accord, donc un peu comme les perles en Montessori, où on peut compter, on met 7 7 fois, et ben on va mettre 7 barrettes de 7.
Voilà, exact. Par exemple, alors sur la table de Pythagore, je leur donne une grande caisse, où dans les grandes caisses, si vous avez on va dire la barre de 1, la barre de 2, de 3, voilà, jusqu'à 9. Et puis, ils ont le signe multiplié. Et puis, tous les chiffres, ils doivent construire le tableau sur un grand tapis. Mmh. Ils doivent placer. Et puis ensuite, c'est vraiment pour donner le sens de répéter deux fois. Mmh. Donc, en fait, ils vont prendre deux fois deux. Ils vont prendre deux. Et puis, ils vont mettre deux.
Oui, voilà. Oui. D'accord.
Voilà. Et là, je vais un peu rajouter un peu plus ou... Je mettrai en plus les cartes chiffres qui correspondront aux résultats chiffrés. Mais ça, ils aimaient beaucoup. Mais CE2, ils ont beaucoup aimé. Il y en a certains qui, après, pour pouvoir faire leur table, utilisaient ce matériel de manière autonome, sans forcément... avoir la table de Pythagore, du coup ils savaient où se trouvait la grosse caisse et qui allaient chercher, et du coup à force, et ben ça commençait, le sens commençait à rentrer, et puis et les résultats commençaient à rentrer. J'ai trouvé ça intéressant, surtout pour pas pour des élèves qui ont des facultés, des facilités de mémoire, hein, en mémorisation, c'est pas un souci pour eux, mais surtout beaucoup plus pour des enfants qui ont besoin de toucher, même de recompter, voilà. Et le fait que l'unité soit marquée, et c'est un petit peu comme les barres rouges et bleues de Montessori, on va faire toucher le rouge, et puis après on va faire un, et puis la barre bleue, et puis voilà, on fait deux, voilà. Donc, et là, c'est pareil, mais en plus petit, et pour accéder à la multiplication. Et ça, c'est vraiment très intéressant.
Et je me demande, est-ce que vous êtes la seule dans votre école à travailler de cette manière ?
Alors, je suis toute seule pour l'instant, mais j'ai ma collègue de CE1 qui est très intéressée. Et donc, du coup, on fera déjà CE1, CE2. Et qui on est monté toutes les deux, et même avec ma stagiaire, on est monté sur l'école Notre-Dame de Juin, qui se trouve à Meudon, qui fonctionne aussi Pierrefort, et on est allé observer des classes pendant les vacances de février. Et elle a adoré ma collègue de CE1, et elle me dit, on va y aller, quoi. Je lui dis, bon, je suis d'accord. Donc voilà, l'objectif, c'est qu'après on fasse un petit peu tache d'huile. Et du coup, ça titille un peu mes collègues de CM1. Mon collègue de CM2, bon, il est à 3 ans de la retraite, donc bon, je sais pas. Mais il fonctionne comme ça. Il a énormément d'expérience. Mais il y a des choses, voilà, qu'il a mis en place. Après, il y a des choses qu'il a mis en place qui correspondent. Après, on prend après ce qui correspond à notre personnalité professionnelle. Mais ce que j'aimerais beaucoup, c'est aussi que en maternelle, ça puisse
Le travail par
bien
l'essence,
démarrer en lien avec
ça vient.
Montessori, bien sûr.
Oui.
Moi qui étais en moyenne section, hein, j'ai testé, hein, le plan de travail en moyenne section, c'est génial. Enfin, j'ai tout fait par dessin. Et c'était génial. Ils ont adoré. Le matin aussi, ils arrivaient, et puis j'avais une grande armoire avec plein de casiers. Et j'avais mis, par exemple, les maths, c'était le signe du bateau, le français, c'était le soleil. Voilà, j'avais mis différentes thématiques dessinées, en fait. Les domaines étaient dessinés, par exemple. J'avais mis, par exemple, pour le graphisme et l'écriture, c'était un crayon qui était dessiné, et puis avec une progression, crayon 1, crayon 2, crayon 3, avec une progression au niveau du graphisme, et après, on allait à l'écriture, au niveau de la motricité fine. J'avais mis une fleur, et dans la fleur, il y avait différentes. Ils avaient leur petit carnet, et puis il y avait l'aide maternelle aussi qui était associée. Et puis à chaque fois que c'était OK, on entourait le numéro associé à l'activité. Puis quand tout était entouré, ils coloriaient leur dessin sur la fleur, sur le bateau. Et c'était génial, ils ont adoré. Donc c'est vrai que. Mais je ne ferai pas moi la formatrice à mes collègues. Je pense qu'il faut que je fasse intervenir mes collègues formatrices pour venir former les
Oui,
enseignants de l'école. Ce sera
c'est peut-être pas
beaucoup
facile d'avoir
mieux
plusieurs rôles à la
au
fois. Bah, merci beaucoup
niveau.
Myriam pour ce partage. On va terminer avec les trois questions habituelles. Est-ce que vous auriez une citation que vous aimeriez partager avec les auditeurs?
Alors, il y a une citation de Pierre Fort, du père Pierre Fort, que j'aime beaucoup. Il y en a même deux, parce que bon, c'est en lien. Chaque personne est unique et actrice de sa propre construction, de sa propre formation. Ensuite, il y a « Ainsi deviendras-tu maître de ta conduite et de toi, davantage autonome, car tu auras appris à trouver de toi-même les moyens et les forces pour réaliser ce que tu ambitionnes. Voilà, ça j'aime beaucoup. Voilà, ça fait appel vraiment à soi. Voilà, à soi, on a plein de potentiel.
Est-ce que vous voulez nous lire la deuxième qui allait avec ou c'était
Ah ben c'était,
les deux,
je
je
l'ai
d'accord.
donné à la suite.
Les deux, d'accord. Et est-ce que vous y aurait un livre que vous aimeriez conseiller?
Alors, un livre, justement, c'est un livre de Pierre Fort sur un enseignement personnalisé communautaire. Des éditions Arthège. Voilà. Une pédagogie pour l'école inspirée de Montessori. Donc ça, c'est le livre de base.
D'accord. Myriam me montre la
Voilà.
couverture, je le dis pour les auditeurs. La couverture a dû être changée parce que j'avais jamais vu cette image. Elle a dû être renouvelée peut-être.
Oui, c'est une nouvelle édition.
Oui, d'accord.
Voilà, c'est une nouvelle édition qui a été dont l'avant-propos est de Étienne Petit, qui est le président de l'association Louis Beaulieu, voilà,
D'accord.
qui pour la promotion de la pédagogie du Père Fort.
Et on va terminer avec un coup de cœur ou un coup de gueule.
Alors, un coup de cœur, c'est, j'ai découvert cet été, au mois de juillet, parce que j'ai fait une formation sur les optophones. Les optophones, il y en a 8, donc 8 boules d'énergie. Et la formatrice, elle est belge. Elle s'appelle Françoise Romers Poumet. Et j'ai découvert donc la psychologie positive à travers les intelligences multiples et avec ses optophones. C'est génial. Enfin, j'ai beaucoup apprécié. Ça, c'est vraiment une découverte, un coup de cœur.
D'accord.
Alors, j'ai fait cette formation avec des webinaires et c'est extraordinaire. Et c'est des choses aussi que je mettrai en place pour que les enfants ou filles puissent apprendre à se connaître et moi aussi à les connaître et vraiment m'adapter à leurs besoins, à leurs réels besoins et pour qu'ils puissent être totalement dans la réussite et trouver leurs ressources pour que quand ils iront, parce que nous, à l'école, on est, c'est un petit cocooning, hein, on les protège bien, ces petits bouchons. Et quand ils iront au collège, c'est un autre monde, mais qu'on ait pu développer en eux tout leur potentiel, sur quoi il faut qu'ils s'appuient pour pouvoir après affronter le monde de demain et aussi se mettre au service de l'autre, parce que se connaître soi, c'est aussi ensuite pour être bien avec les autres et aussi pouvoir partager et s'entraider et les aider.
C'est une belle conclusion. Merci voilà. Myriam.
Merci beaucoup Céline, beaucoup.
Si ce podcast vous a plu, je vous rappelle que je compte sur vous pour laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et une note de 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast. C'est la meilleure solution pour donner de la visibilité au podcast et contribuer vous aussi à cette révolution éducative. Et n'hésitez pas à partager les épisodes qui vous plaisent. À la semaine prochaine !